Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Bonjour Blanche.
Bonjour.
Blanche, tu as décidé de nous parler d'un sujet préoccupant aujourd'hui.
Oui, j'ai décidé de vous parler de la pollution des océans et des plages, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je vis à Biarritz et donc je me rends compte régulièrement de cette pollution.
On a des chiffres, Blanche, qui viennent illustrer ton propos aussi.
Effectivement. Par exemple, chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans et arrivent sur nos plages. Des associations cherchent des solutions et œuvrent au quotidien pour endiguer ce phénomène à l'image de Surfrider Foundation, créée par un groupe de surfeurs en 1990 à Biarritz. L'entité est désormais mondialement reconnue pour ses actions de protection des plages et des océans. Pour en parler avec nous ce matin, Antoine Bruges. Bonjour Antoine.
Bonjour Blanche.
Antoine, vous travaillez depuis 5 ans pour Surfrider. Vous êtes aujourd'hui directeur de production et spécialiste de la pollution plastique. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner quant à la production de plastique ?
Oui, on a des chiffres. J'ai des chiffres à vous donner, à te donner, Blanche. Alors, déjà, la production annuelle de plastique, elle ne fait qu'augmenter. Donc, en fait, on consomme tous les ans de plus en plus de plastique. Si mes chiffres sont bons, on est entre 300 et presque 400 millions de tonnes cette année. Donc, c'est des quantités de plastique qui sont produites. Donc là, à l'échelle internationale, hein, donc c'est énorme. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement que ces chiffres, la quantité de plastique, elle augmente vraiment. On en consomme tous les ans de plus en plus. Et après, il y a d'autres chiffres que je peux vous donner. Hein. C'est par exemple un chiffre qu'on utilise régulièrement, c'est la quantité de plastique qu'on retrouve dans l'Atlantique, qui est estimée à 8 millions de tonnes.
Et par rapport au plastique sur les plages, est-ce que vous avez des chiffres aussi ?
Oui, alors sur les plages, on dit souvent par exemple qu'on retrouve 80% des déchets qu'on retrouve sur les plages sont en plastique. Donc voilà, ça veut dire que l'essentiel des déchets qu'on va retrouver sont en plastique. Il y a différentes raisons. Hein. Par exemple, le plastique, c'est quand même le matériau qui est le plus utilisé pour produire des biens de consommation. Et c'est aussi un matériau qui se fragmente facilement. Donc on retrouve beaucoup de fragments de plastique.
Donc savez-vous de quel type de plastique il s'agit en général sur les plages ?
Oui. Alors ça c'est une très bonne question. En fait, la plupart des déchets qu'on retrouve sur les plages, ça va être essentiellement des déchets d'emballage alimentaire et de boissons. Ça, on en retrouve énormément, des morceaux de bouteilles, des bouteilles en plastique, des morceaux d'emballage alimentaire. Donc par exemple, je prends souvent l'exemple du coin de la barre de céréales. Tu sais, quand tu ouvres un paquet de céréales, il y a souvent ce coin en plastique là qui s'en va, qui s'envole très facilement. Ça, on en retrouve beaucoup. Ça, c'est un type de déchet. Après, on retrouve aussi beaucoup de déchets qui proviennent en fait des eaux usées. Donc ça va être des déchets qui vont être jetés dans les toilettes. Donc c'est le cas par exemple pour les cotons-tiges. On retrouve beaucoup de cotons-tiges sur les plages. Et donc après, il y a forcément beaucoup d'autres types de déchets qu'on va retrouver. Je vais prendre l'exemple des biomédias, qui sont des petits camemberts qu'on a peut-être déjà vus. Tu t'es peut-être demandé ce que c'était. Ça ressemble à des petits camemberts en plastique, ça fait à peu près 1 cm. Et donc ça, c'est des plastiques qu'on retrouve qui sont utilisés dans les stations d'épuration. Et parfois ça déborde, parfois ils sont emportés et ils se retrouvent dans les eaux usées, ils sont parfois rejetés directement dans la nature. Au final, celui en fait qu'on retrouve sur les plages, très similaire à ce qu'on retrouve aussi dans l'océan. Au final, les déchets qu'on retrouve sur les plages, c'est énormément de déchets qui sont poussés par le vent sur les plages. Donc c'est les mêmes. Ce qu'on retrouve parfois en plus, c'est l'été ou même là maintenant, quand il commence à faire beau les week-ends, beaucoup de mégots de cigarettes. J'étais sur la plage là mardi et y a des endroits, on voit que les gens se sont posés et ont fumé leurs cigarettes et les ont laissées sur place. C'est un peu énervant, mais voilà, ça on en voit encore beaucoup. Et après dans les rivières, par contre, c'est parfois un petit peu différent parce qu'on n'a pas les déchets issus de la pêche professionnelle. Mais grosso modo, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. L'essentiel des déchets vient des villes, donc c'est beaucoup d'emballages alimentaires.
Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des microplastiques ?
Oui, alors les microplastiques, c'est un sujet qui est très important et on en parle de plus en plus. Il faut savoir que les déchets en plastique, avec l'action des vagues, avec l'action du soleil, des UV, ils vont s'abîmer, ils vont se fragmenter et ils vont se transformer en petits fragments de plastique. Et donc, quand un microplastique, c'est un plastique qui fait entre 5 mm et 0,3 mm. Ça, c'est un microplastique. Et donc, ce microplastique, soit il vient de la fragmentation d'un objet de grande taille en plastique, soit il est directement rejeté dans la nature sous la forme de microplastique, hein, sous cette taille. Et donc là, c'est le cas de différents types de microplastiques, comme par exemple ce qu'on appelle les larmes de sirène. Les larmes de sirène, c'est des petites billes blanches, souvent transparentes, qui sont en fait on appelle ça des granulés de plastique industriel. Donc en fait, les industriels utilisent du pétrole, le transforment en gouttelettes, ils transforment ce pétrole en gouttelettes de plastique, ces petites billes, et après ils refondent ces petites billes pour faire des objets en plastique. Et donc parfois ces petites billes, elles sont perdues, elles se retrouvent dans la nature, et on en trouve beaucoup sur nos plages. Ça, c'est un type de microplastique qu'on appelle donc primaire, qui est directement sous la forme de microplastique. Après, on a d'autres types de microplastiques qui sont par exemple des billes dans les cosmétiques. Blanche, tu vois peut-être certains cosmétiques où il y a des petits granulés dedans, tu sais, c'est des exfoliants, je ne sais pas si ça te parle.
Oui, oui.
Voilà, et ben donc là-dedans, avant 2018, tu pouvais trouver des microbilles en plastique, dans le dentifrice aussi. Mais depuis, en fait, il y a une réglementation qui a été passée, donc ça c'est le travail des associations, de faire pression sur les entreprises, mais aussi sur les élus. Et donc il y a une loi qui est passée pour interdire ces microbilles dans les cosmétiques. Et après, le dernier type de microplastique, c'est par exemple tout ce que tu vas retrouver dans tes vêtements. Tu sais que tu as beaucoup de vêtements qui sont des vêtements synthétiques, donc avec par exemple des fibres de polyester. Ça, c'est du plastique au final. Quand tu vas mettre ton vêtement, ton pull, ton t-shirt dans ta machine à laver, il va perdre un certain nombre de fibres. Souvent, c'est beaucoup. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est beaucoup de fibres qui vont être perdues. Ces fibres, elles vont partir dans les eaux usées. Et ces eaux usées, elles vont partir soit en station d'épuration, soit parfois, dans certains cas, quand il pleut beaucoup, il y a des chances que ce soit rejeté directement dans la nature. Donc, par exemple, dans la Midouze, hein, à Mont-de-Marsan. Et donc, si c'est rejeté directement dans la nature, bon, ben voilà, ces fibres, c'est du plastique qui arrive dans la nature. Si ça va en station d'épuration, il y a des chances que ce soit traité, bloqué par la station d'épuration. Mais il y a des chances aussi que ça finisse dans les bouts de stations d'épuration qui sont dans certains cas valorisés sur les champs. Et comme aujourd'hui, on n'a pas de normes sur le nombre de microplastiques dans les bouts de stations d'épuration, on ne regarde pas la pollution microplastique dans ces bouts avant de les étendre.
Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous agitez sur le microplastique ?
Alors, avec Surfrider, on fait différentes choses. On fait beaucoup de lobbying. Donc du lobbying, c'est on appelle ça aussi des actions d'influence. L'idée, c'est de se rapprocher des élus, des sénateurs, des députés, etc., pour leur expliquer la problématique, leur dire que nous, on observe qu'il y a de plus en plus de microplastiques. On sait que c'est grave parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que ça pouvait jouer, par exemple, sur la capacité d'une huître ou d'autres animaux à se reproduire. Qui a, dans certains cas, donc là, on n'est plus sur les microplastiques, mais sur la taille inférieure, les nanoplastiques, qui a parfois des risques de transfert dans la chaîne alimentaire. Et donc l'idée, c'est de leur expliquer tout ça et de faire en sorte qu'ils fassent passer des lois. Donc on fait beaucoup de lobbying. Et après, la deuxième chose qu'on fait, c'est également de la science participative. Donc à Surfrider, j'ai mis en place un projet qui est en fait un kit. Donc c'est une grande malle. Et dans cette malle, on a tout le matériel nécessaire pour faire des échantillonnages et des analyses de microplastiques. Donc on descend un filet dans les rivières, on filtre l'eau avec ce filet, on le remonte, on le ramène à Surfrider ou chez nous. Et on vient regarder avec une loupe binoculaire, avec un microscope, et on vient compter la présence de microplastiques. Voilà. Et on trouve souvent beaucoup de fibres, c'est ce que je disais juste avant, et après des fragments de microplastiques. Et donc là, c'est un peu plus dur de savoir d'où ils viennent et de quel objet ils viennent. Voilà. Donc il faut retenir deux choses, du lobbying et de la science qu'on appelle participative, parce qu'on s'appuie sur nos bénévoles.
Vous venez de nous dire qu'il y avait certaines espèces qui étaient touchées par cette pollution plastique. Est-ce qu'il y en a qui sont plus touchées que d'autres ?
Oui, plus touchées que d'autres, ce n'est pas toujours facile à estimer. En tout cas, je dirais qu'il y a plusieurs espèces qui sont régulièrement étudiées. Donc il y a certains oiseaux qui sont régulièrement étudiés parce que les oiseaux, au final, sont... on ne sait pas toujours pourquoi. c'est pas toujours facile de l'expliquer, mais ils sont attirés par exemple par certaines couleurs, parfois le plastique aussi, comme ils passent du temps dans la mer, parfois ils les attirent et ils ont tendance à les ingérer. Donc les oiseaux peuvent ingérer comme ça des déchets en plastique, et donc ça peut au final colmater leur estomac et ils peuvent mourir à cause de ça. Après, parfois, ils peuvent se prendre aussi dans d'autres déchets. Donc, c'est le cas, par exemple, des déchets de la pêche ou des sacs plastiques. Donc, on connaît bien le cas des tortues, par exemple, qui parfois confondent les sacs plastiques avec les méduses. Parfois, ces tortues, elles peuvent se prendre aussi dans des filets de pêche. Là, il y a des cas qui sont vraiment très récurrents. C'est le cas pour tous les mammifères marins aussi, qui peuvent se prendre dans des vieux filets de pêche, au final, hein, qui sont perdus par l'industrie de la pêche, qui dérivent. Et dans lequel ces animaux peuvent se retrouver piégés. Et après, en fait, toute la chaîne alimentaire est impactée à son échelle. Le plancton, par exemple, il peut être impacté par une particule de nanoplastique. Les poissons, par exemple, peuvent ingérer aussi des microplastiques parce qu'ils vont croire que voilà, c'est une espèce. Et le risque, c'est que ces particules, alors les microplastiques, en théorie, d'après ce que les chercheurs ont montré, se transmettent pas dans la chaîne alimentaire. Par contre, les nanoplastiques, qui sont une taille encore inférieure aux microplastiques, qui sont vraiment, vraiment très petits, eux peuvent potentiellement s'accumuler dans les graisses des poissons. Et alors, c'est pas encore les études doivent encore être, creusées sur ce sujet-là, mais potentiellement, ces nanoplastiques peuvent se transférer d'une espèce à une autre. Donc, imaginez par exemple, un poisson qui avale un microplastique ou plusieurs microplastiques, il va les stocker dans son corps. Et après, si derrière on a un dauphin qui mange le poisson, potentiellement dans le dauphin, il va aussi intégrer ces microplastiques, ces nanoplastiques. Donc il y a un risque comme ça que tout doucement, en fait, on retrouve dans les espèces vivantes ces nanoplastiques et ces nanoplastiques qui contiennent des substances aussi un peu toxiques pour ces animaux.
Quelles sont les actions menées par Surfrider contre cette pollution plastique ?
Du coup, je recoupe un petit peu avec ce que j'ai dit un petit peu avant. On mène des actions. Par exemple, au début, j'ai parlé des cotons-tiges. En fait, on a fait des collectes de déchets sur les plages. Donc ça, on appelle ça de la mobilisation. On mobilise des bénévoles pour aller sur le terrain, faire des collectes de déchets. Et avec ces collectes, on a également fait de la science. Parce qu'on collectait les déchets, mais on regardait aussi quel type de déchets on retrouvait sur les plages. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cotons-tiges. Donc on a fait de la mobilisation, on a fait de la science, et avec ces données, avec cette information comme quoi on retrouvait beaucoup de coton-tige, on a fait du lobbying. Donc on a été voir les élus, et on leur a dit, on retrouve beaucoup de coton-tige sur les plages, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Et à force de leur dire de faire quelque chose, ils ont fini par prendre une décision, ça a pris du temps, ça a été de dire, ok, les coton-tiges, on va plus les faire en plastique, on va les faire en carton. Parce que on sait les faire en carton, et aussi parce que on peut pas être dans les toilettes derrière tout le monde en train de leur dire surtout ne jetez pas votre coton-tige dans les toilettes. Voilà. Donc on a fait, là je récapitule, on a fait du lobbying, on a fait de la science, on a fait de la mobilisation, et on a aussi fait de la sensibilisation, parce qu'on a dit aux gens, attention, surtout il ne faut pas jeter vos coton-tiges dans les toilettes, parce qu'ils peuvent finir sur les plages. Voilà, donc on fait tout ça. On fait de la mobilisation, de la sensibilisation, de la science et du lobbying.
Êtes-vous en mesure de nous dire si l'évolution de la pollution plastique des océans et des plages a changé compte tenu de vos actions ?
Alors, aujourd'hui, en fait, on trouve qu'il y a toujours autant de déchets. Il y a toujours autant de déchets. On mène un projet de... Donc là, c'est vraiment scientifique. Hein. On fait appel à nous pour suivre l'évolution de la pollution plastique sur la plage de la Barre à Anglet. Et on se rend compte, en fait, quand on regarde les données, qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. On trouve toujours autant de déchets. Alors, ça ne veut pas dire que les collectivités ne font pas d'efforts ou que... Voilà. Ça veut dire aussi que nous, on sait que dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup de déchets qui sont brassés, qui circulent localement, qui viennent de la Doure aussi, par exemple. Mais il faut quand même garder en tête aussi qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été, de décisions qui ont été prises, de lois qui sont passées entre 2018, voire peut-être même entre 2016 et maintenant, et que les efforts pour sentir l'efficacité de ces mesures, il va falloir attendre quand même quelques années. Donc aujourd'hui, on va voir des résultats. Il y a des résultats qui vont arriver. Il y a plein de mesures qui ont été prises. Mais après, si je dois donner mon avis personnel, je pense qu'elles sont pas encore suffisantes et qu'on va encore devoir prendre d'autres mesures pour vraiment constater une réelle baisse de la pollution plastique de nos plages.
Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions que nous pouvons mener à notre échelle, nous ?
Oui, alors ça c'est pareil, c'est une excellente question. On peut tous agir, tout le monde peut prendre des mesures. On a dit que les élus pouvaient prendre des mesures, c'est vrai, mais nous aussi, à notre échelle, on peut le faire en faisant attention à ce qu'on achète. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc, on peut acheter, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'aliments sans emballage. Donc ça, il faut vraiment le faire. C'est vraiment très important. On peut, par exemple, utiliser du savon plutôt que d'utiliser du shampoing dans des emballages en plastique. On peut utiliser du shampoing solide ou du savon solide. C'est beaucoup mieux que du gel douche, qu'on consomme pas de plastique. On peut par exemple utiliser une gourde pour se déplacer, aller à l'école, etc. La gourde, on la remplit tous les jours, on réutilise l'emballage, on peut boire l'eau du robinet, et ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. Quand on va faire ses courses, donc ça je pense que tout le monde le fait de plus en plus, plutôt que d'acheter un sac plastique, parce que maintenant on nous les vend, autant prendre un cabas réutilisable. Voilà, c'est tout des petites actions au final qui, cumulées, ont un impact sur notre consommation de plastique et sur la taille de nos poubelles, au final. Voilà. Donc vraiment, il faut faire attention à ce qu'on achète et essayer au maximum, le plus possible, de réduire sa consommation de plastique.
Merci Antoine Bruges.
Merci Blanche.
MDM, votre radio locale.